Le podcast que nous vous proposons aujourd'hui est centré autour de Robert Fourisson, l'un des plus influents négationnistes français, disparu fin 2018. Interrogé par Rudy Reichstadt, Gilles Kermazin, l'animateur du site antinégationniste phdn.org, revient sur les éléments de langage et la rhétorique d'un des plus célèbres falsificateurs de l'histoire. Pourquoi Fourisson savait qu'il mentait ? C'est à écouter maintenant sur Conspiracy Watch.
Gilles Kermazin, depuis 1996, vous animez un site unique en son genre, un site de référence sur la réfutation de la propagande négationniste. Ce site, c'est phdn.org. Vous y réfutez consciencieusement l'ensemble de l'argumentaire de ceux qui nient ou présentent de manière trompeuse la réalité de la Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de ce travail, qui est un travail bénévole, dont le sérieux toutefois et la rigueur sont salués unanimement par tous les spécialistes de l'histoire de la Shoah, vous vous êtes fatalement intéressé aux écrits et aux discours du négationniste français Robert Fourisson, disparu il y a 2 ans aujourd'hui, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2018. À l'annonce de sa mort, vous avez écrit sur Twitter que Fourisson était un antisémite compulsif qui mentait et savait qu'il mentait. Alors pour comprendre ce que vous vouliez dire, commençons par le début. Un antisémite compulsif. Qu'est-ce qui justifie un tel jugement de votre part ?
Alors tout simplement, le constat. Hein. C'est un constat que j'ai fait, et d'ailleurs que n'importe qui peut faire, à la lecture même des productions de Fourisson. Constat que sa prose est une prose antisémite. Et je tiens tout de suite à préciser, antisémite, au-delà même de la nature en soi radicalement antisémite, de la négation de la réalité de l'extermination des Juifs par les nazis. Mmh. Fourisson a évidemment cherché à rendre discrète cette passion, mais elle surgit régulièrement sous sa plume. Ainsi, lorsqu'il évoque Sidney Lewis Bernstein, le commanditaire d'un documentaire sur les crimes nazis, il le désigne comme le Juif Sidney Lewis Bernstein. De la même façon, pour parler du juge polonais qui mena l'instruction lors du procès de Rudolf Höss, l'ancien commandant d'Auschwitz, il écrit « Le juif polonais Jan Zen ». Alors il s'agit évidemment d'un vieux topos antisémite d'extrême droite. Et les tournures stylistiques et rhétoriques de cet ordre abondent et sont nombreuses chez Fourisson. Mais alors, évidemment, ce n'est pas qu'une question de forme, c'est aussi une question de fond, et c'est surtout le fond du discours qui est violemment antisémite. D'abord, lorsqu'il traite de son sujet, forcément. C'est ainsi qu'il présente la loi sanctionnant l'expression publique du négationnisme.
La loi Guesso ?
La loi Guesso.
Donc d'un député communiste.
Hein. Tout à fait. Ouais. Il la présente comme étant le fruit, et là on ouvre des guillemets, le fruit d'une décision du grand rabbinat. Imposé à la République. Voilà. Donc, alors j'ai montré sur PHDN comment, pour étayer cette affirmation délirante, Fourisson falsifie un article de presse assez difficile à trouver, mais et dont il espérait évidemment que personne ne vérifierait le contenu.
Un article un peu confidentiel.
Voilà, c'était publié dans une revue d'une association. Et donc, il a invoqué cet article et il a prétendu en déduire que la loi Guesso était une décision du grand rabbinat. C'est le fruit d'une falsification évidente de cet article. Je l'ai lu, je l'ai mis en ligne. Enfin, j'ai fait la démonstration de ça sur PHDN. Et alors, falsifier un texte pour renouer avec un topos de complot juif. C'est évidemment antisémite.
Mais sur PHD, vous montrez aussi que son approche de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, de la collaboration de Vichy est très singulière.
Oui, c'est même singulier au point qu'il fait sienne les valeurs de la collaboration, voire du collaborationnisme le plus débridé. Et Fourisson, par exemple, il compare sa propre éviction de l'université à celle du sabotage, un sabotage justifié en 1942.
42, on est en pleine occupation.
En pleine occupation, en pleine collaboration, du cours de Henri Labroux en Sorbonne, pour un séminaire, entre guillemets, d'histoire du judaïsme, qui a été créé à la demande du responsable du commissariat général aux questions juives. C'est un organisme de collaboration très dur. Donc le responsable était Louis Darquier.
Qui connaîtra aussi sous le nom de Louis Darquier de Pellepoix.
Oui, et comme dit Nadine Fresco, il est de Pellepoix comme je suis de La Rochefoucauld. C'est juste pour se faire mousser. Enfin, bon, voilà. Donc Darquier, il faut savoir, c'est quelqu'un qui a appelé explicitement au meurtre des Juifs avant la guerre. Labroux, c'est un collaborateur du Soral de l'époque.
Le Soral de l'époque.
Ouais, qui s'appelle ouais. Henri Coston, ouais. qui a eu une carrière très très longue d'antisémite professionnel. Qu'on a même surnommé le pape de l'antisémitisme à un moment.
Henri Coston, c'est d'ailleurs non seulement un disciple de Drummond, mais c'est aussi l'inspirateur et le mentor de Ratier, d'Emmanuel
Ratier.
Tout à
fait. Ah, mais il y a des filiations qui sont ouais. intéressantes. Donc Labroux était collaborateur de Coston, et tous ces gens sont des antisémites fanatiques. Et voilà que Forisson se réclame d'un tel personnage. Bon, c'est un aveu explicite hein, de sa passion et de sa passion antisémite.
Ouais.
Alors, il n'y a pas que le sujet de la Seconde Guerre mondiale qui est concerné, et c'est là qu'on touche à des choses qu'on peut qualifier de sublimes. Il y a des affirmations extravagantes, sans le moindre rapport avec l'histoire contemporaine. Lorsque, par exemple, il reprend très explicitement hein, la thèse d'un complot, alors évidemment juif,
ouais.
contre Cicéron.
Contre Cicéron.
Cicéron. Le romain, le politicien, l'orateur. Donc,
il y a 2000 ans.
Il y a 2000 ans, voilà, ouais. on a fait un grand saut en arrière. Hein. Donc ouais. il y a, selon Forisson, il y a un complot juif contre Cicéron. Rien de moins. Alors il se trouve que cette invention antisémite hein, ouais. N'est pas sortie de l'imagination de Forisson.
Elle vient d'où ?
Elle vient de Dietrich Eckart. Et Dietrich ouais. Eckart, c'est l'un des tout premiers nazis,
ouais.
qui était très proche d'Hitler et que beaucoup considèrent comme l'un de ses mentors politiques.
Ouais.
Et à cette occasion, on peut donc faire le constat que Forisson ne pense pas seulement en antisémite, et que Forisson pense en nazi.
Ouais. Et vous avez un autre exemple alors de cette réécriture de l'histoire sur des plages de temps extrêmement importantes.
Il y en a beaucoup, hein, mais il y en a une que je trouve aussi touchant au sublime, c'est que Forisson, enfin on est dans l'extravagance, a affirmé que le grand inquisiteur, donc on n'est encore pas, ouais. c'est plus de l'histoire contemporaine,
ouais.
le responsable de l'expulsion des Juifs d'Espagne, ouais. l'initiateur d'innombrables exactions antisémites.
Donc là, on est au 15e, 16e voilà. siècle.
On est au 15e,
15e siècle.
Donc Thomas de Torquemada.
Torquemada, d'accord.
Le Torquemada.
Ouais.
Était, alors il faut s'accrocher, un Juif converti. Alors là, la première fois que j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés. Est-ce qu'il faut préciser que c'est un mensonge au premier degré ?
Mmh.
Enfin, c'est un mensonge extrêmement malveillant. Et cette malveillance, elle est évidemment de nature antisémite.
Elle n'est d'ailleurs pas très éloignée des thèses complotistes qui font d'Hitler le fils ou le petit-fils à Rothschild, etc.
C'est la même passion, enfin c'est le même mécanisme ouais. qui donne envie de donner des origines juives à toute personne qui a commis des exactions contre les juifs.
Ouais.
C'est une façon de retourner la culpabilité contre les juifs eux-mêmes.
Ouais.
Donc Forisson a aussi sacrifié à ça. Alors ici, il faut quand même conclure sur le sujet de l'antisémitisme en mentionnant l'excellent et minutieux travail d'investigation documentaire et testimonial de votre collègue, hein, l'historienne Valérie Gonnet.
Ouais.
Bon, parce qu'elle a trouvé des correspondances antisémites de Forisson, elle a trouvé des témoignages de sa posture tout simplement pro-nazi quand il était étudiant. Elle a documenté l'engagement politique de Forisson à l'extrême droite, qu'il a toujours cherché à dissimuler.
Oui, il faut juste rappeler que Valérie Gonnet est l'auteur, l'autrice d'une biographie publiée en 2012 sur Robert Forisson.
Qui est un travail remarquable.
Voilà.
Et elle rappelle aussi que Forisson a, dès les années 60, ouais. adhéré à une organisation fondée par Jean-Marie Le Pen.
Absolument.
Donc, l'obsession antisémite de Forisson est également attestée par ceux qui l'ont côtoyé à l'université. Bref, rappeler l'antisémitisme compulsif de Forisson, ouais. parler d'antisémitisme compulsif, c'est juste un constat qui est très largement étayé.
Alors, il faut rappeler qu'en 2017, Forisson avait été débouté hein, d'une plainte en diffamation qu'il avait déposée contre une journaliste du Monde, Ariane Chemin, qui l'avait qualifié dans l'un de ses papiers de, je cite, « menteur professionnel, de falsificateur et de faussaire de l'histoire ». Et au grand dam des partisans de Forisson, la justice avait jugé que ces mots étaient conformes à la vérité, c'est-à-dire que Forisson était de mauvaise foi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des contre-vérités propagées, relayées par Forisson ?
On peut faire un rapprochement, en l'occurrence vraiment pertinent, avec le procès que le négationniste David Irving, un Britannique, a intenté à l'historienne Deborah Lipstadt.
Historienne américaine ?
Oui. au tournant des années 2000. Alors, Deborah Lipstadt avait qualifié de façon tout à fait légitime Irving de négationniste et de falsificateur. Ouais. Donc à l'occasion du procès, les experts avaient établi le nombre très très élevé dans les productions d'Irving des travestissements des faits ouais. destinés à dédouaner Hitler de toute responsabilité criminelle.
Mais alors Irving disait on fait tous des erreurs, on fait tous des fautes, enfin l'erreur est humaine.
Ça c'est très intéressant parce qu'évidemment à un moment Irving n'a pas pu continuer sa défense en disant qu'il avait raison, donc il a changé son fusil d'épaule, il a dit tout le monde peut se tromper, tout historien face aux montagnes documentaires commet des erreurs. Et là, la défense lui a fait une réponse tout à fait logique et de bon sens en prenant l'exemple bien connu d'un serveur d'un café ouais. qui peut se tromper régulièrement en rendant la monnaie. Oui, il peut se tromper un serveur, s'il est honnête. Mais s'il est honnête, il se trompera parfois en sa propre faveur et parfois en la faveur du client. S'il se trompe toujours en sa propre faveur...
Et au détriment du client.
Voilà, c'est qu'en réalité, il ne se trompe pas.
C'est que c'est un voleur.
C'était la même chose avec Irving, ouais. Dont toutes les erreurs, selon son propre vocabulaire, allaient dans un seul sens, pro-hitlérien, et pro-nazis.
Pro-exonération des nazis.
Voilà. Donc c'était évidemment pas des erreurs, c'était des falsifications volontaires.
Et donc Forisson ?
C'est la même chose. Ouais. Forisson, il accumule les contre-vérités, mais il ne s'agit pas d'erreurs, puisqu'elles vont toujours systématiquement dans un seul sens. Édulcoration, négation des crimes nazis, justification de ces crimes.
Justification.
Oui, justification. J'ouvre une parenthèse sur ce point. À de nombreuses reprises, Forisson, et c'est des choses qui sont assez dures à lire, justifie l'exécution des enfants juifs à l'Est, sous prétexte de lutte antipartisan et de représailles. Alors, entre guillemets, lutte
antipartisan, c'est répression de la résistance locale.
Donc, il justifie à ce titre le meurtre d'enfants juifs. Mmh. Il faut bien comprendre que ce discours-là est très précisément un discours nazi. Mmh. C'est le discours des bourreaux. Mmh. C'est le discours tenu par Himmler lui-même, par exemple. Et dont il est établi par les historiens à quel point c'est un discours délirant et absolument mensonger.
C'est l'idée qu'il faut en fait tuer les enfants pour que les enfants plus tard ne se vengent pas.
Ça, c'est une autre modalité qu'a effectivement décliné Himmler à plusieurs reprises, mais là c'est carrément que il y a des bavures, enfin il y a une nécessité dans le cadre de la lutte antipartisane de tuer tout le monde.
D'accord.
Parce que tout le monde est partisan, y compris les enfants. Ouais. Et ça, Forisson l'a écrit lui-même.
D'accord.
Donc, faut bien comprendre que le discours de Forisson et celui des autres négationnistes est toujours in fine un discours nazi. Alors, ouais, on peut reprendre sur les autres contre-vérités. Donc, sur les contre-vérités de Forisson, il a répété pendant 40 ans
oui.
que jamais Hitler n'avait voulu tuer ou faire tuer des juifs parce que juifs.
Quelque part, d'ailleurs, sur un tract de 78, dont parle Valéry Gounet, d'ailleurs, il écrit que le nombre de juifs tués par Hitler et les nazis s'élève, bien heureusement, je crois, dit-il, une formule absolument incroyable, c'est bien heureusement à zéro. Il
voilà.
écrit comme ça.
Et il l'a répété sous d'autres formes à plusieurs reprises. Alors ça, c'est une affirmation qui est vraiment spectaculaire et qui est martelée avec une malassurance et qui l'a martelée toute sa carrière. Or, s'il y a bien un corpus qui est facilement accessible, c'est celui des déclarations d'Hitler sur les Juifs. Je ne parle pas ici de ses propos violemment antisémites, du racisme sanitaire, de la vision du monde complotiste. Je parle des propos spécifiques, nombreux, où Hitler mentionne explicitement la mort des Juifs comme étant éminemment désirable, fondamentalement nécessaire, puis des déclarations où il mentionne un projet. Et enfin, celles où il déclare que ce projet s'est transformé en acte, et elles sont pléthoriques. Je prends un seul exemple. Dans des documents diplomatiques parus en France en 1939.
En 1939, c'est-à-dire au tout début, enfin l'année de la guerre.
Oui, c'est paru avant la guerre.
Avant la guerre.
Et c'est paru en France. Et donc voilà, tout le monde pouvait le lire. C'est pas quelque chose qui a été découvert tardivement et publié dans un ouvrage d'historien en 2020. Donc l'extrême obsession d'Hitler contre les Juifs est exprimée devant le ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque, le 21 janvier 1939. Celui-ci rapporte les propos d'Hitler à Léopold Victor Delacroix, qui est l'ambassadeur de France en poste en Tchécoslovaquie, qui va écrire un rapport et une dépêche qui vont être envoyées à la diplomatie française.
D'accord.
Donc le ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque a été tellement impressionné par la virulence d'Hitler qu'il en a fait le récit à plusieurs personnes.
Ouais.
Et il a déclaré, Hitler a déclaré, devant lui, qu'il fallait supprimer la vermine juive. Un autre témoin auquel donc le ministre des Affaires étrangères s'est confié confirme ses propos sous une autre forme, encore plus claire si possible, puisqu'Hitler a affirmé qu'il était nécessaire d'exterminer les Juifs.
Ouais.
Donc ça, c'est des propos tenus par Hitler le 21 janvier 1939. Bon, j'ai rassemblé sur PHDN près d'une quarantaine d'occurrences de tels propos où Hitler parle de la mort des Juifs, dont ceux qui illustrent la connaissance...
Qui montre qu'il avait une connaissance de l'extermination...
En cours.
D'accord.
Voilà. Qu'il en avait connaissance et qu'il l'a prouvé.
D'accord.
Qu'il avait... qu'il l'a prouvé, le massacre de masse des Juifs en cours pendant la guerre. Et ses propos sont absolument dénués de la moindre ambiguïté. Faurisson, en martelant sa négation de la volonté hitlérienne de tuer les Juifs en tant que Juifs et en masse, commet une falsification spectaculaire d'un corpus documentaire auquel il a évidemment accès.
Ouais. Vous avez d'autres exemples de ce genre de falsification, de contre-vérité ?
Il y en a un qui est particulier, puisque c'est presque le premier. Et il a trait au décret NN, Nachtunnebel, qui est le décret du 7 décembre 1941, un décret secret qui criminalise tout comportement jugé hostile au Reich ou à l'occupant. Et donc les ennemis décrétés NN, dont un certain nombre de résistants d'ailleurs, sont destinés, donc Nachtunnebel, sont destinés à disparaître sans laisser de traces.
Nachtunnebel, c'est nuit et brouillard. Hein.
Dans la nuit, voilà.
Sans laisser de traces dans la nuit et dans le brouillard.
Dans le brouillard.
Ouais.
Donc l'expression nuit et brouillard est devenue un symbole qui a quelque peu recouvert la réalité du décret. C'est passé dans le langage courant comme une incarnation puissante de la barbarie nazie.
Ouais.
Bon, comme souvent, Faurisson s'en prend autant aux symboles qu'aux événements eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, notamment, il nie l'authenticité du journal d'Anne Frank, qui n'est pas centrale dans l'argumentaire négationniste, autrement que pour sa portée symbolique. L'expression « nuit et brouillard » est bien souvent associée dans les représentations collectives à la déportation et à l'extermination des Juifs, ce qui est historiquement en fait un contresens, les déportés NN n'ayant aucun lien avec l'entreprise du meurtre de masse des Juifs et vice-versa. Mais Faurisson a identifié le symbole, et donc il a décidé, comme pour Anne Frank, de le torpiller. Alors,
et donc, comment il a torpillé ce symbole
Donc, pour ce faire, dès 1975, il affirme publiquement que la signification de NN n'est pas Nachtunnebel, mais Nomen Nescio.
Nomen Nescio, c'est une formule latine qui veut dire on ne connaît pas le nom, on ne sait pas les noms, c'est ça.
Voilà. Donc, Faurisson a trouvé une autre extension de NN.
Mais Nomen Nescio n'est jamais écrit. Ce qui est écrit, c'est NN. C'est ça qui est. C'est lui qui l'interprète comme ça.
Tout à fait. Mais il n'y a pas que NN qui est écrit, on va le voir. Faurisson répète, il martèle, qu'il n'existe aucun document nazi utilisant pour le décret NN la signification Nacht und Nebel.
Ouais. Sauf que.
Alors, c'est intéressant parce que cette affirmation, c'est celle par laquelle Faurisson inaugure.
Ouais.
Sa carrière médiatique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale en 1975, dans une lettre à un magazine d'histoire en public qui s'appelait Historama.
Ouais.
Alors, si Faurisson, il insiste tant sur ce décret, qui ne touche pas au cœur de son discours, qui est la négation de la réalité du génocide des Juifs, c'est pour sa portée symbolique. Il cherche à enfoncer un coin dans un imaginaire collectif avec un objectif double, débarrasser les nazis du poids de leurs crimes les plus emblématiques, puisqu'ils n'ont pas eu lieu, et surtout, instiller le doute. Parce que si on a tant menti sur Nachtunnebel, pour charger les nazis, pourquoi n'aurait-on pas menti sur le reste ?
Le génocide des Juifs.
Voilà. Sauf que, des documents d'époque qui associent explicitement l'expression Nachtunnebel au sigle NN,
il y en a. Vous en avez trouvé. Il y en a plein ?
Ah, il y en a plein. Il y en a beaucoup, et il y en a même plusieurs dans un corpus documentaire que Faurisson se targue d'avoir lu avec la plus extrême minutie, les actes du procès de Nuremberg.
Ouais, carrément.
Faurisson, alors, pense évidemment qu'il s'adresse à un public qui n'a pas les moyens ou la volonté de vérifier ses contre-vérités les plus grotesques. Bon, on sait, on peut montrer que sa contestation de la signification du sigle NN est une pure contre-vérité. Mais peut-être n'a-t-il lui-même jamais vu un tel document.
Ce qui serait fort.
Ah, ce qui serait fort. Hein. Bah, je souligne quand même que, même dans ce cas-là,
ouais.
Forisson ferait la promotion d'une médiocrité méthodologique radicale en prétendant déduire du fait qu'il n'a pas vu quelque chose que ce quelque chose n'existe pas.
Et c'est du Saint Thomas au carré.
Voilà. Ouais. Surtout, ça serait un bien lamentable chercheur pour ne pas avoir trouvé des documents dans un ensemble documentaire qu'il se vante d'avoir dépouillé.
Ouais.
Alors peut-être que Forisson a mal lu, ou peut-être que son mensonge porte sur le fait qu'il aurait lu les actes du procès Nuremberg intégralement.
Mmh.
Alors,
pour vous, c'est
pour moi, c'est plus probable,
c'est possible,
hein, parce
oui.
que, enfin, ces actes, ils contiennent tellement de réfutations de son négationnisme
ouais.
qu'il est plus probable que Forisson les a pas lus.
D'accord.
Alors quoi ? Il est évident que l'affirmation par Forisson d'une absence de mention de Nartung Nebel est une contre-vérité. C'est une contre-vérité qu'aucun chercheur honnête n'aurait été en mesure de répéter pendant 40 ans. Et surtout, ce n'est qu'une des innombrables contre-vérités dont Forisson s'est rendu coupable.
Ouais.
Toujours dans le même sens.
Là aussi, toujours dans le même sens. C'est comme le garçon de café.
Voilà. C'est ce que la justice interprète comme une attitude de falsificateur.
D'accord. D'où le jugement de 2017. Mais alors, comment est-ce qu'on peut affirmer, finalement, au-delà de tout doute raisonnable, que Forisson, comme vous le dites, sait qu'il ment. Finalement, s'il n'a pas lu les actes du procès de Nuremberg, s'il est incompétent, il a pu mentir sur sa propre, son propre sérieux. Mais sur le fond, comment vous pouvez dire avec autant d'aplomb qu'il sait qu'il ment ?
On peut le montrer finalement assez facilement et sur des points essentiels. La négation par Forisson de la réalité de l'extermination des Juifs repose sur trois piliers rhétoriques.
Ouais.
Et dans chacun des trois cas, on peut montrer qu'il ment et qu'il sait qu'il ment.
Alors,
le premier pilier du discours forissénien,
ouais.
C'est le résultat d'une nécessité induite par la négation.
Ouais.
La réalité de l'extermination, elle est attestée dans tous ses aspects par un nombre extrêmement important de témoins.
Ouais.
Il convenait de disqualifier les témoignages de façon radicale, et du point de vue de Forisson, définitif. Il y a là évidemment une aberration méthodologique, tant le travail des historiens se fait toujours avec l'étude et l'exploitation des témoignages.
Ouais.
Alors, certes, en usant des outils classiques de la critique...
Mais est-ce qu'ils ne sont pas au-dessus de la critique, ces témoignages ?
Bien sûr que non. Le métier d'historien consiste justement à faire une utilisation raisonnée des témoignages et des témoins. Donc, jamais les témoignages ne sont soustraits à la critique.
Mais ce que vous montrez sur PSGN, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Il raye carrément la possibilité de tout, tout témoignage.
Et ça, aucun historien de métier peut accepter une telle aberration méthodologique et de l'exclusion des témoignages sur une pétition de principe. Alors comment... Voilà. La question, c'est sur quoi il base cette disqualification ? Il s'appuie sur une lettre envoyée par l'historien allemand Martin Broza au journal Die Zeit en 1960.
Ouais.
Martin Broza y corrigeait des erreurs parues dans un précédent article relatif aux chambres à gaz des camps de concentration. Alors le propos de Broza, il était très précis, très circonscrit et se limitait à trois lieux, Dachau, Bergen-Belsen et Buchenwald. Il rappelait que dans ces trois camps, il n'y avait pas eu d'assassinat par gazage. Alors, pour être plus précis, pas de chambres à gaz dans les deux derniers.
Ouais.
Et le cas de Dachau est plus complexe et finalement Broza est revenu dessus plus tard.
D'accord.
Mais ça n'a pas d'incidence sur le propos de Forisson là, ici. Forisson fait dire à Broza qu'il n'y aurait jamais eu aucun assassinat par gazage dans aucun camp de concentration en territoire allemand. Or, constate Forisson, si on suit sa logique, de nombreux témoins attestent de gazage à Ravensbrück, Mauthausen, Neuengamme ou Orianenburg, Sachsenhausen. Forisson en déduit le caractère non seulement irrecevable de ces témoignages, notamment ceux issus des bourreaux.
Les nazis eux-mêmes.
Voilà. Qu'il est fondamental de disqualifier.
Ouais.
Puis, sur une pétition de principe évidemment irrecevable, de tous les témoignages.
Tous les témoignages sont irrecevables.
Sont irrecevables,
ouais.
Voilà. Mais il en tire ensuite la conclusion de leur caractère globalement mensonger. Donc Forisson pense de cette façon pouvoir jeter une suspicion légitime et définitive sur tous les témoins et justifier son propre refus catégorique de les prendre en considération. Mmh. Il poursuit son raisonnement en arguant que si on a menti sur Mauthausen ou Sachsenhausen, on a également menti sur Auschwitz, ouais. Treblinka et tous les centres de mise à mort industrielle par gazage.
C'est une logique implacable.
Ah, c'est implacable, sauf que la prémisse de Forisson découle de sa falsification du texte de Broza. Mmh. Non seulement Broza affirme explicitement la réalité des massacres de masse par gazage des Juifs dans les centres de mise à mort industrielle à l'Est, mais à aucun moment il ne suggère, comme Forisson n'a de cesse de lui faire dire pendant 40 ans, qu'aucun camp de l'ancien Reich n'aurait été doté de chambres à gaz.
Donc Forisson ventriloque, en fait.
Ah, c'est exactement ça. Ouais. Il fait une paraphrase. Sauf que Martin Broza ne parle nullement de Ravensbrück, de Mauthausen, de Neuengamme ou Orianenburg-Sachsenhausen, ouais, où des assassinats par gazage sont documentés. Or Forisson, lui-même, au plus tard en 1980, a fourni une traduction fidèle à l'original de la lettre de Broza. Mmh. Il en connaît donc parfaitement le texte. Forisson, mmh, ne peut ignorer que jamais Broza n'a dit ou suggéré ce que lui-même lui fait dire. Mmh. Donc Forisson, dans ce cas, ment, et c'est qu'il ment. Et ce mensonge-là, il est fondamental. Parce que, évidemment, Forisson n'a eu de cesse de le répéter, mmh, mais surtout, il présente la lettre de Martin Broza comme le texte qu'il a fait entrer en revisionnisme, selon ses termes, et que ce texte constitue pour lui un véritable moment d'illumination.
C'est son chemin de Damas, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, en définitive, tout le négationnisme de Forisson est fondé sur un mensonge originel, radical.
D'accord. Donc ça, c'est le premier pilier de la rhétorique forissonienne. Vous avez parlé de trois piliers, mais alors le deuxième pilier.
Le deuxième pilier, c'est du discours forissonien, c'est celui de l'affirmation que la chambre à gaz montrée aujourd'hui à Auschwitz I est absolument impropre à une utilisation pour tuer des êtres humains. Alors dans ce seul cas, Forisson n'hésite pas à en déduire l'impossibilité architecturale générale d'assassinat par gazage d'êtres humains par le Troisième Reich.
Il extrapole en fait.
Voilà. Ouais. En tout temps, en, ouais, tout lieu, y compris ceux qui n'auront jamais pris la peine d'étudier, ouais, entre guillemets. Ouais. Donc c'est un argumentaire topographique et architectural.
Alors c'est quoi ce crématoire 1 de Auschwitz 1, le premier camp d'Auschwitz ?
Donc, dans le premier camp d'Auschwitz, il y avait un crématoire qui comportait en 1941 une morgue qui a été utilisée pendant environ un an, jusqu'en 1942, comme chambre à gaz à des fins d'assassinat de masse. Ce que tous les témoins ont formellement attesté. C'est cette pièce qu'on visite aujourd'hui.
Quand on va à Auschwitz aujourd'hui.
Voilà, on visite cette pièce où on montre et on voit la chambre à gaz.
D'accord.
Historiquement, à la suite de la construction de Auschwitz II, Birkenau, les meurtres collectifs y ont été transférés. Ouais. Et donc le crématoire 1 d'Auschwitz 1 a cessé d'être utilisé pour assassiner des gens par gazage. Et il a subi plusieurs transformations. Des plans d'époque en attestent. N'étant plus, à la fin de la guerre, depuis plusieurs années, un bâtiment criminel, le crématoire 1 ne fut pas détruit à la fin de la guerre par les nazis au moment de leur fuite, contrairement à tous les bâtiments de Birkenau qui avaient servi de chambre à gaz et qui firent, eux, dynamiter. Tout de suite après la guerre, les Polonais ont souhaité redonner à ce bâtiment l'agencement qu'il avait lorsqu'il abritait une chambre à gaz.
Dans une logique de commémoration,
mémorielle et historique. Alors, à cette occasion, ils ont commis plusieurs erreurs qui sont bien connues et documentées, que je ne vais pas détailler ici parce que j'en fournis la description détaillée sur PHDN. Mmh. L'une de ces erreurs a pour conséquence qu'une porte en bois vitré a longtemps donné sur la pièce qui inclut la chambre à gaz originelle, alors qu'elle n'en avait pas du tout fait partie. On n'imagine pas les mises en scène que cette porte a suscité depuis plus de 40 ans chez les négationnistes, alors même que, évidemment, elle n'avait jamais été en contact avec la morgue chambre à gaz. Elle n'en avait jamais fait partie, elle n'avait jamais été une porte de la chambre à gaz. Ouais. Les portes originelles ont évidemment disparu depuis longtemps. Mais Forisson met en scène au plus tard en 1980 cette découverte entre guillemets en se gossant de cette porte vitrée trop fragile, non étanche, et l'invoque pour marteler pendant des dizaines d'années l'impossibilité de l'assassinat par gazage en ce lieu.
Ouais.
Or, dès son premier texte relatif à cette chambre à gaz, Forisson produit lui-même les plans d'époque, afin d'illustrer son propos. Et ces plans, ainsi que le commentaire détaillé dont il les accompagne, permettent de constater, sans la moindre ambiguïté, deux choses. Un, que la fameuse porte vitrée ne faisait pas et n'avait pas jamais fait partie de la chambre à gaz décrite par les témoins, à savoir la morgue originelle. Deux, que Forisson l'a parfaitement compris.
Et pourquoi ?
Ah, bah parce que Forisson produit des plans qui sont très explicites, qu'il commande de façon très fine, montrant qu'il a une très bonne conscience de ce qu'était la morgue, des transformations qu'on fait subir à ce bâtiment les nazis, puis les Polonais. Donc il a parfaitement compris la topographie du lieu. Il sait très bien que la porte dont il parle n'a jamais fait partie de la morgue.
Il sait très bien que ce sont les Polonais après-guerre qui l'ont ajouté.
Ils n'ont pas ajouté la porte. Ils ont juste fait une erreur qui fait que la porte avait l'air de donner sur la chambre à gaz. Mais il a parfaitement compris. Et l'invocation par Forisson de cette porte pour affirmer une impossibilité architecturale, elle constitue une tromperie délibérée. Non seulement il a menti en parfaite connaissance de cause, mais il y a quelque chose de fascinant, c'est que son orgueil, il y a un hubris forissonien qui l'ont conduit, dès le début de sa carrière négationniste, à fournir lui-même le moyen d'établir sa radicale malhonnêteté. Alors il faut souligner que tous les négationnistes francophones ont utilisé ce pitoyable argument de la porte en bois.
C'est un argument qu'on retrouve chez
Renoir,
chez Soral également. Et chez Soral. Vous avez fait un article sur le sujet, voilà. Sur PHDN.
Voilà. Il a aussi utilisé ça, mais j'ai montré que dans le cas d'Alors Soral, celui-ci n'avait effectué ni le moins de travail, ni la moindre lecture, et qu'il se contentait de plagier des mensonges qu'il ne comprenait même pas.
C'est ça. C'était encore plus grave, de même pas savoir qu'on ment.
C'est une bonne question.
Alors, ce fameux troisième pilier du discours forissonien, quel est-il ?
Donc, le troisième pilier du discours, enfin du négationnisme de Forisson, s'organise autour d'un argumentaire à prétention, je dis bien à prétention scientifique, physico-chimique, relatif à l'utilisation de l'acide cyanhydrique, le composé utilisé sous forme de gaz pour assassiner en masse à Auschwitz. Donc le zyklon B, c'est le produit utilisé à Auschwitz, qui est un support de l'acide cyanhydrique sous forme liquide, qui imprègne des granulés stockés dans des boîtes hermétiquement fermées. Donc l'exposition des granules de zyklon B répandues à l'air libre entraîne un dégagement très rapide d'acide cyanhydrique sous forme de gaz, mortel pour l'homme à faible dose et très rapidement. Donc j'ouvre une parenthèse. Le zyklon B, c'est un produit qui, dès le milieu des années 20, c'est un best-seller international pour la désinfestation des navires, c'est-à-dire la lutte contre les rats. Et la lutte contre les insectes, les poux par exemple, dans les maisons et les bâtiments. Il est utilisé par des personnels spécialisés, mais par milliers dans le monde entier.
Oui.
Son utilisation dans des circonstances très variées, elle est décrite dans des dizaines d'articles de la presse spécialisée, médicale et sanitaire des années 20 et 30.
Donc c'est un produit bien connu, quoi.
C'est très connu, très utilisé, parfaitement maîtrisé. Il faut bien comprendre que si en raison de sa haute toxicité, il est dangereux pour l'homme, bah les procédures de son emploi sont parfaitement maîtrisées. Les objections récurrentes de Forisson au regard de cette banalité de l'emploi sont évidemment ridicules. Et pour revenir, on va prendre l'exemple concret, au discours de Forisson. Il déploie plusieurs arguments pour contester la simple faisabilité de l'emploi du zyklon B pour l'assassinat d'êtres humains. Alors tous sont contraires à la réalité scientifique, mais l'un d'entre eux mérite qu'on s'y attarde tant Forisson l'a répété pendant 40 ans. C'est l'incroyable, selon Forisson, risque d'explosion qui rendrait totalement impossible l'utilisation de l'acide cyanhydrique, notamment à proximité des fours crématoires. Alors Robert Forisson, et là je suis presque fatigué de le dire, tellement il a épuisé cet argument, et il l'a exprimé sur tous les tons, par écrit, en vidéo, s'il avait pu le mimer, il l'aurait fait. C'est établi pour Forisson. L'utilisation du zyklon B dans les conditions décrites par tous les témoins comporte un risque majeur d'explosion, rendant,
selon lui,
impossible l'utilisation qu'on a dite. Fermez le banc, les témoins mentent, il n'y a pas eu de gazage à Auschwitz, et suivant la logique forissonienne, il n'y a pas eu de génocide.
C'est la bonne nouvelle de Forisson.
Voilà. Partant d'un seul petit argument, c'est vraiment, on suit le fil qui est celui de Forisson. Or, c'est intéressant, c'est que Forisson se targue d'avoir découvert le document qui corrobore toutes ses affirmations sur les difficultés insurmontables, selon lui, de l'utilisation du zyklon B, à savoir le mode d'emploi du produit. Mmh. Forisson a-t-il dépouillé des centaines de cartons d'archives pour cela ? Non, pas du tout. En fait, le document figure dans les actes du procès de Nuremberg. Ces actes, ou soit dit en passant, figurent des documents prouvant que le décret NN est bien une abréviation de Nartunnebel. Bon, passons. Ce document, ce mode d'emploi, est traduit en français par Forisson dès 1977. Mmh. Or, il nous donne, sous la plume même de Forisson, trois informations. 1. L'acide cyanhydrique est extrêmement toxique à très faible dose pour l'être humain. 2. Le risque d'explosion existe à partir d'un seuil minimal de 75 g d'acide cyanhydrique par mètre cube d'air. 3. L'utilisation normale, c'est-à-dire pour la désinfestation, et c'est-à-dire à des concentrations bien plus élevées que les concentrations mortelles, est d'environ 8 à 10 g par mètre cube. Et dans ce cas, et on peut le lire, hein, sous la plume du traducteur Forisson.
C'est lui-même qui traduit le document.
C'est lui qui traduit le document, et il précise que cette utilisation normale se fait à une concentration qui est non explosive.
D'accord.
Or, les doses très rapidement mortelles pour l'homme sont, je le répète, bien inférieures à ces quantités déjà non explosives. Donc, d'ailleurs, le consensus scientifique actuel chez les toxicologues est que la dose mortelle pour l'homme, en quelques minutes, est plus de 180 fois inférieure à la concentration minimale de risque d'explosion.
D'accord.
Que la quantité mortelle à coup sûr en une minute est plus de 15 fois inférieure à celle du risque d'explosion.
Donc on a de la marge, quoi.
Ah mais incroyable, quoi. C'est une autoroute. Alors, c'est assez stupéfiant quand même de constater qu'il suffit de lire Forisson lui-même pour comprendre qu'il a brandi et agité pendant 40 ans un document qui démontre exactement le contraire de l'argument massu qu'il a asséné devant des parterres de groupies négationnistes énamourées jusqu'à la fin de sa vie. Alors, à moins de soutenir que Forisson ne lisait pas les documents qu'il produisait lui-même, la conclusion, elle est évidente. Forisson a toujours menti et a toujours su qu'il mentait.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cette mythomanie incroyable chez Forisson ?
Il y en a tellement que c'est un peu difficile de choisir, mais je peux mentionner une anecdote à la marge de tous ces argumentaires techniques et qui est assez drôle et qui montre qu'il y a vraiment une mythomanie consciente de Forisson et que c'est vraiment sur tous les plans que ça s'exerce. En 2002, il a réussi à s'introduire dans le public d'un colloque consacré à la loi Guesso qui sanctionne l'expression publique du discours négationniste. À la fin, il a pris la parole et il en a profité pour exposer une fois de plus son argumentaire, notamment sur le caractère explosif de l'acide cyanhydrique.
Ce que vous venez de nous expliquer sur le zyklon B.
Alors, il a fait après un récit triomphant de cette intervention. Alors, écrivant, je vais résumer, qu'il avait cloué le bec à tout le monde. Or, dans l'assistance, l'historienne Nadine Fresco, qui est spécialiste du négationnisme, lui avait répondu en rappelant comment lui, Forisson, mentait sur ses affiliations politiques, ce qu'on a vu au début. Et surtout, un autre intervenant s'est levé et a justement fait la démonstration que Forisson mentait sur le danger d'explosion, ce qui avait, pour le coup, cloué le bec à Forisson. En guise de triomphe, c'était plutôt une humiliation publique. Mais Forisson ne dit pas un mot de ces deux interventions. Et dans son récit, il inverse totalement le piteux dénouement de cet épisode.
Et alors, qui était le second intervenant, du coup ?
Alors, je garantis la véracité du déroulement de cet événement, parce que le second intervenant, c'était moi.
C'est ça. Et alors, Forisson était un menteur. Mais au fond, qu'en est-il des autres négationnistes ? Est-ce que les autres négationnistes le croient de bonne foi, le suivent lui uniquement, sont négationnistes pour d'autres raisons, ou est-ce qu'eux aussi sont dans une forme de falsification ?
Alors, le cas de Forisson peut être vraiment étendu aux autres négationnistes, à la fois sur les motivations antisémites et sur la pleine conscience qu'ils ont de mentir. Je ne peux pas évidemment refaire une démonstration pour chacun d'eux, mais j'ai montré sur PhDN qu'il en était de même du négationniste et nazi assumé Vincent Renoir, ou de l'allemand Germar Rudolph, le le meilleur atout scientifique des négationnistes, dont j'ai aussi démontré l'incompétence en fait en matière scientifique. Mais qu'il mentait, hein. Il a falsifié des textes, ce qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que même le gourou posthume de la secte négationniste, Paul Racinier, confié en 1960 à un journaliste allemand, Helmut Kissler, qu'il avait mis devant ses contradictions lors d'une conférence. Paul Racinier lui a confié, et c'est une citation de Helmut Kissler, « Peut-être que moi aussi, je mens ».
Comme une forme d'aveu.
C'est ce qu'on peut penser.
Bon, merci beaucoup, Gilles Carmassin, de nous avoir accordé cet entretien fouillé, précis. J'invite évidemment nos auditeurs à se reporter à votre excellent site phdn.org, PhDN pour pratique de l'histoire et dévoiement négationniste, pour en tout cas tous ceux qui voudront approfondir encore un peu le sujet. Merci à nouveau, à très bientôt.
Merci à vous.